Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, le jour des 70 ans de la Chine communiste, de violents affrontements, police, manifestants à Hong Kong, au moins une personne sérieusement blessée. Ce matin, à Pékin, place Tiananmen, énorme parade militaire. Les affrontements à Hong Kong, les missiles qui défilent à Pékin, nous en parlons avec notre invité, le chercheur Antoine Bondaz. Action en justice et manifestation à Rouen, 5 jours après l'incendie Lubrizol. Le gouvernement a beau promettre toute la transparence, il ne convainc toujours pas. Depuis jeudi aussi, des rumeurs folles et des intox circulent. Alors sur les analyses à mener, sur la qualité de l'eau, sur la nocivité des odeurs, nous essaierons de trier le vrai du faux avec Sophie Becherel. Et puis cet incendie dans une usine chimique en pleine ville, ce sera aussi au menu de la tête au carré, Mathieu Vidard, la terre au carré.
Oui Bruno, je reçois Arnaud Gosseman, avocat spécialisé dans le droit de l'environnement et de l'urbanisme. On reviendra justement sur les inquiétudes et la colère de la population face aux informations des pouvoirs publics.
01 45 24 7000 pour vos questions et informations dans la Terre au carré à 13h30. Cette information France Inter, la Miviludes, mission de lutte contre les sectes, va disparaître. Colère de son ancien président, le magistrat Georges Fenech.
C'est une défaite des pouvoirs publics, mais c'est aussi une victoire des mouvements à caractère sectaire qui ont réussi à infiltrer des lieux de pouvoir jusqu'à obtenir la tête de la Miviludes.
La Miviludes absorbée par le ministère de l'Intérieur, Wafia Kenich nous donnera les détails. Dans l'actualité encore, arrêtez de tweeter ou poster sur Instagram ou Facebook. Votre contrôleur des impôts vous regarde. Surveillez les réseaux sociaux pour détecter la fraude fiscale. Ce projet du gouvernement suscite la controverse. Édouard Balladur et François Léotard, envoyés devant la Cour de justice de la République dans l'affaire Karachi. Le PSG dans le stade d'Istanbul ce soir en Ligue des Champions. Nous vous raconterons l'histoire de cet ex du PSG devenu une star en Turquie, Pascal Nouma. Il participe à Danse avec les stars et The Voice. Reportage étonnant, vous verrez. Avant cela, bonjour Stéphane Capron.
Bonjour Bruno.
Vous serez Stéphane en studio pour rendre hommage à Jesse Norman.
Oui, une grande voix de l'opéra qui avait gagné sa popularité en France, capable de donner des frissons autant dans le grand répertoire classique que dans le spiritual. Jesse Norman, c'était la puissance et une femme engagée.
On écoutera du gospel et du Purcell. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Il était en costume Mao, forcément. Le président chinois Xi Jinping a lancé ces dernières heures les cérémonies pour le 70e anniversaire de la Chine communiste. Rien ne peut ébranler les fondations de notre grande nation, dit-il. 70 ans et toutes ses dents, 15 000 soldats, des centaines de chars, missiles, avions de combat ont défilé place Tiananmen. Autant vous dire que les bottes étaient lustrées et les mouvements de jambes coordonnés. Un pays, deux systèmes. À Pékin, les hommes défilent. À Hong Kong, les manifestants défient le régime. Le mouvement pro-démocratie a fait de ce jour anniversaire, un jour de chagrin, des dizaines de milliers de personnes dans la rue et de très violents affrontements entre manifestants et police. France Inter en Chine, Dominique André, depuis Pékin, on regarde Hong Kong.
Dans la tribune, aux côtés des dirigeants chinois, le visage de Carrie Lam, la chef de l'exécutif local de Hong Kong, apparaît rapidement à la télévision officielle qui retransmet en direct les cérémonies dans toute la Chine. Xi Jinping, imposant dans son costume Mao sombre, sait que tout le monde attend ses déclarations sur l'ancienne colonie britannique qui défie son pouvoir depuis plus de 3 mois.
Nous avançons sur notre chemin pacifique de l'unité du territoire et nous allons continuer à appliquer de façon totale et sincère le principe un pays, deux systèmes et nous agirons en stricte conformité avec la constitution et la loi fondamentale hongkongaise.
Ce n'est pas une concession de la part du président chinois qui rappelle depuis le début qu'il respecte ses engagements législatifs. Mais à 3 heures d'avion de Pékin, le face-à-face avec le régime chinois est de plus en plus violent. On voit aujourd'hui des manifestants à Hong Kong porter le célèbre masque noir et blanc à la fine moustache et au sourire ironique des Anonymous, déjà aperçu de nombreuses fois dans des manifestations à travers la planète. Il symbolise le combat de ceux qui veulent un changement politique violemment s'il le faut. La nuit s'annonce incertaine à Hong Kong. Pékin, Dominique André, France Inter.
Et les dernières informations, celles d'abord de l'agence Reuters, des batailles de rue entre manifestants armés de cocktails Molotov et forces de l'ordre qui tirent des grenades lacrymo. Voilà ce que nous dit l'agence Reuters qui parle d'un bilan de 15 blessés, une personne dans un état critique. De son côté, l'agence France Presse parle de tirs à balles réelles et d'un manifestant blessé. Bonjour Antoine Bondaz.
Bonjour.
Chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, vous venez de publier un rapport sur la puissance militaire chinoise. C'est à ce sujet que nous vous avions fait signe au départ. Mais évidemment, parlons de Hong Kong, 2-3 questions sur cette situation. D'abord, est-ce qu'un cap a été franchi ce matin de votre point de vue ?
Alors on verra si le cap a été franchi, c'est-à-dire si des tirs à balles réelles ont bien eu lieu à Hong Kong dans la journée. Ce qui est sûr, c'est que du côté de Pékin, c'était évidemment ce qu'il fallait éviter, c'est-à-dire éviter que ce jour anniversaire, 70e anniversaire de la République populaire de Chine, les médias internationaux parlent davantage de Hong Kong que du défilé militaire, et c'est ce qui est en train de se passer.
La Chine a du mal à trouver la sortie de crise à Hong Kong.
Effectivement, Pékin apparemment n'a pas de stratégie concrète pour mettre fin à ces manifestations, et ces manifestations vont se poursuivre. Et pour une raison simple, on assiste en réalité à la politisation de l'ensemble d'une génération. Les événements il y a 5 ans, dont on a fêté l'anniversaire il y a peu de temps, de 2014, n'étaient qu'un prélude à ce qui se passe désormais, et les revendications politiques, notamment de la jeunesse hongkongaise, vont se poursuivre.
Est-ce qu'on peut anticiper et s'attendre à ce que les réactions de la Chine soient particulièrement fermes en ce jour symbolique, ou au contraire, la police aura pour consigne de donner dans la retenue? Pour l'instant, les informations sont contradictoires.
Alors, c'est effectivement contradictoire. On ne sait pas s'il y a eu une demande expresse faite par Pékin d'utiliser des balles réelles, si encore une fois c'est confirmé, ou si ce sont les autorités simplement de Hong Kong qui ont pris cette décision. Il faut attendre. Ce qui est sûr, encore une fois, c'est que pour Pékin, cette crise s'inscrit dans la durée et qu'il n'y a pas de stratégie clairement affichée.
Antoine Banda, ce matin, la Chine a dévoilé de nouveaux missiles sur lesquels on peut mettre des têtes nucléaires, missiles d'une portée de 14 000 km, un nouveau bombardier stratégique, deux drones, le drone supersonique, le drone furtif. L'objectif de l'armée chinoise, dit Xi Jinping, c'est d'atteindre un niveau de classe mondiale d'ici au milieu du siècle. Ce qui a été présenté ce matin, le défilé de ce matin, en quoi cela raconte des progrès de l'armée chinoise ?
Alors, il y a des progrès évidents en termes de modernisation des capacités militaires de la Chine. Juste deux exemples. Le premier, c'est ce que vous avez mentionné, le DF-41. C'est un missile à portée intercontinentale, mobile, à propulsion solide, c'est-à-dire qu'il peut être extrêmement réactif, qui peut emporter plusieurs têtes nucléaires et surtout qui peut emporter des aides à la pénétration, c'est-à-dire garantir que les têtes nucléaires chinoises transperce les défenses antimissiles américaines. L'objectif de la Chine en présentant ce missile, c'est de montrer qu'elle est capable de moderniser ses forces, qu'elle est un interlocuteur crédible et que sa dissuasion, surtout vis-à-vis des États-Unis, est crédible. Le deuxième point, deuxième exemple, c'est plusieurs équipements potentiellement utilisant des technologies hypersoniques, notamment ce qu'on appelle le DF-17. Là, l'objectif de la Chine, c'est de montrer qu'elle n'est plus seulement dans une logique de rattrapage des armées étrangères, mais qu'elle est dans une logique de modernisation et surtout d'innovation internationale, puisqu'aujourd'hui, la Chine est le seul pays à avoir officiellement fait défiler un véhicule hypersonique.
Pour donner une idée à ceux qui connaissent mal le sujet comme nous, comme moi, si l'on prend deux repères très simples, la puissance armée américaine, la puissance armée française, où se situe la Chine ? Entre les deux, au milieu ?
Alors, en termes d'armée, de façon générale, entre les deux évidemment, sur les questions nucléaires, la dissuasion nucléaire française, elle est extrêmement crédible. Les capacités sont limitées, mais elles sont extrêmement efficaces. Et c'est en réalité un petit peu ce que cherche à faire la Chine, c'est-à-dire à travers un arsenal nucléaire limité, c'est-à-dire 20 fois moins de têtes quasiment que les États-Unis, être capable de maintenir une dissuasion extrêmement crédible. Et la Chine, de plus en plus, atteint cet objectif.
Et l'objectif, c'est d'être une puissance régionale ou de pouvoir intervenir loin de ses frontières ?
Alors, la Chine, très clairement, depuis plusieurs années, a mis en œuvre et développé des capacités de projection de force, que ce soit par exemple pour faire de la lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden, et ça elle le fait déjà depuis une dizaine d'années, et également de plus en plus des forces afin de mener des opérations de contre-terrorisme par exemple en Asie centrale. Ça, c'est une priorité pour la Chine. La deuxième priorité pour la Chine, c'est évidemment d'être un acteur influent dans sa périphérie. Il ne faut pas oublier que la réunification avec Taïwan demeure une priorité pour la Chine. Et puis à plus long terme, la question se pose évidemment de l'impact de l'armée chinoise sur la scène internationale, l'évolution des équilibres stratégiques. Et c'est pour cela que d'un point de vue européen et notamment d'un point de vue français, l'étude de l'évolution du dispositif militaire chinois est fondamentale.
Merci Antoine Bondaz d'avoir répondu à nos questions. J'ajoute à propos de Hong Kong cet appel de l'Union européenne, appel à la désescalade et à la retenue.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
D'un côté, les autorités promettent de tout dire. De l'autre, une partie de la population a du mal à les croire. Voilà la situation. 5 jours après l'incendie dans l'usine d'additifs Lubrizol à Rouen, rien ne sera caché. Tout sera mis sur la table, assure, après le chef du gouvernement, le ministre de l'Agriculture ce matin. Et il ajoute, on sait qu'il y a une pollution sur Rouen, que de l'amiante a brûlé. La pollution est-elle grave? Peut-elle avoir des effets sur la santé? Tout sera publié entre demain et après-demain, promet Didier Guillaume. À 18h ce soir, une série d'organisations, d'associations, de syndicats appellent à manifester entre le palais de justice et la préfecture de Rouen. Rencontre avec une mère de famille qui sera dans le cortège. Elle s'appelle Charlotte, 2 enfants. Elle habite le village de Préau, au nord de Rouen. Elle a vu le nuage de très près. Reportage France Inter, Thibault Lefebvre.
Depuis 5 jours, Charlotte garde ses 2 enfants de 3 et 12 ans à la maison. Pas question d'envoyer le plus grand à l'école, encore trop risqué selon elle.
Il se devait de changer tous les filtres d'air. Et sachant que les filtres n'ont pas été changés mais que ça serait fait sous 2 jours, eh bien j'ai dit que dans ce cas-là, je ramenais mon fils chez moi le temps que tout soit fait le plus correctement possible.
Pas question non plus de les laisser jouer dans le jardin où il reste encore des traces de pollution.
Le portique des enfants, le toboggan, la balançoire, tout est recouvert d'une fine pellicule grise qui recouvre tout. Hein. Vous en avez partout comme un film.
Charlotte est en colère. Elle ira donc manifester pour 2 raisons. Elle demande à l'État des analyses plus fines et elle exige surtout de l'entreprise Lubrizol un plan rapide d'indemnisation.
Qu'ils payent. Qu'ils payent la responsabilité qu'ils ont dans cet accident. Toutes les analyses devraient être prises en charge par eux. Tous les traitements, les suivis médicaux devraient être pris en charge par eux. C'est eux, les pollueurs, la boîte qui en plus a largement les moyens. Je veux dire, on ne va pas la mettre en difficulté. Hein. Donc c'est leur responsabilité, ils payent. Et l'État, d'arrêter de nous la mettre à l'envers, de dire les choses clairement. Moi j'ai été aberrée de la médiocrité de leur gestion de crise.
Charlotte sera donc tout à l'heure devant le palais de justice de Rouen. Rendez-vous à 18h pour marcher 1 km environ vers la préfecture de Seine-Maritime. Ses enfants resteront eux à la maison pour la 5e soirée consécutive.
Voilà pour ce reportage de Thibault Lefebvre. L'avocate Corinne Lepage lance une première action en justice en urgence pour savoir ce qui était dans l'usine, ce qui a brûlé, quelles analyses ont été réalisées, lesquelles restent à mener. Du côté de l'usine, la direction assure que la liste des produits qui ont brûlé a été communiquée à l'administration et on assure également avoir des témoignages et images selon lesquelles le feu a d'abord pris à l'extérieur. Alors on le voit, il y a encore des informations et des déclarations contradictoires 5 jours après l'énorme nuage noir. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Vous nous avez rejoint pour faire un point de ce qu'on sait à ce stade. D'abord, est-ce que toutes les analyses nécessaires ont été menées pour avoir un tableau précis de la situation?
Alors commençons par l'air. Il y a eu les mesures en continu de l'organisme Atmo Normandie, chargé localement de la qualité de l'air. Aux polluants communs, ceux des voitures, des épandages de fertilisants ou de pesticides par exemple, Atmo Normandie a fourni aux pompiers de quoi faire des prélèvements spécifiques, de quoi chercher des composés très toxiques comme les hydrocarbures complexes que sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques dont certains sont cancérogènes avérés, parfois mutagènes, ce qui veut dire qu'il provoque des mutations de l'ADN. Les résultats sont tombés en plusieurs endroits. Ils sont négatifs, sauf sur le site de l'usine. On trouve par exemple du benzène avec une concentration de 172 microgrammes par mètre cube. Une dose majeure si l'on considère les seuils de toxicité établis par les agences sanitaires. Cette exposition sur une vie entière correspond à 1 risque sur 1000 de développer un cancer de la moelle osseuse. Et pour l'exposition courte de 1 à 14 jours, les effets sont différents. Le système sanguin est touché avec une baisse de production des globules dès qu'on atteint 30 microgrammes par mètre cube sur le site de l'usine. Je vous le rappelle, le taux de consommation de contamination est 5 fois au-dessus de ce seuil. Pour les suies, les premiers prélèvements réalisés le jour de l'incendie révélaient rien d'anormal. Pourtant, il a fallu nettoyer les cours d'école. Et puis depuis jeudi, les agriculteurs de 205 communes répartis sur 4 départements ont reçu la consigne de ne plus vendre leur production. Il y a un hiatus entre ce constat rien d'anormal et ces mesures. Enfin, des analyses sont en cours sur les dioxines dont les résultats seront transmis cet après-midi à la préfecture de Seine-Maritime. Les dioxines sont très toxiques pour la santé car elles persistent dans l'organisme. Comme le demandent les associations, il ne serait pas anormal de mettre en place un suivi des habitants qui vivent à proximité de l'usine.
Deuxième point, les odeurs sont-elles nocives ou pas?
Alors, la combustion, ça s'accompagne parfois d'odeurs. Le feu de bois, les feux de pneus, c'est le signe qu'il y a dans l'air des particules et ces particules sont irritantes pour les bronches. L'odeur d'œuf pourri qui s'ajoute en ce moment provient du mercaptan. Ce gaz nauséabond est ajouté au gaz de ville pour le parfumer et repérer les fuites. Justement, Il est classé comme toxique par inhalation et dangereux pour l'environnement. Il peut provoquer des vomissements, des diarrhées, des problèmes qu'ont connus certains habitants.
Dernier point, Sophie Becherel, l'eau polluée ou pas?
Dans l'agglomération, elle est tout à fait normale. En dépit des rumeurs qui ont circulé, Éric Herbé, le directeur de l'eau à la métropole rouennaise, est formel.
Nous avons procédé à une multitude d'analyses depuis jeudi matin. On n'a strictement aucune trace de pollution dans nos réservoirs, ni dans nos réseaux, bien évidemment. Nous avons eu un appel téléphonique sur le standard téléphonique de la métropole. Nous sommes rendus chez l'abonné, chez l'administré concerné, et l'eau était parfaitement cristalline. Donc je le martèle, je le réaffirme, il n'y a strictement aucune pollution de l'eau sur les 71 communes de la métropole.
Quant à l'eau qui a servi à éteindre l'incendie, elle a été dirigée vers un bassin de rétention. Très polluée, elle doit maintenant être pompée pour être renvoyée en usine de retraitement. Et les eaux de pluie, celles qui ont lessivé les sols, les rues, elles finiront à la Seine en attendant de savoir précisément ce qu'il y a dans ces dépôts. On ne sait donc pas quels polluants iront au fleuve, mais il y en aura.
Manifestation ce soir à 18h à Rouen pour ajouter au climat. Une autre usine chimique classée Seveso a été mise à l'arrêt ce matin. Usine Borealis qui produit des engrais. Problème d'alimentation électrique. C'est une information franceinter.fr vous donnait dès le milieu de la matinée. La Mivilude, la mission interministérielle de lutte contre les sectes, va disparaître. Bonjour Wafia Kenich. La Mivilude va être absorbée par le ministère de l'Intérieur.
Oui, le ministère de l'Intérieur nous l'a confirmé, donc cette absorption. Et déjà, en 2017, un rapport de la Cour des comptes pointait les fragilités de la Mivilude, son faible budget, 500 000 euros, et conseillait son rattachement au ministère de l'Intérieur. Hier après-midi, les membres de la mission ont appris qu'ils seront donc rattachés à la place Beauvau dès le 1er janvier. La Mivilude, en tant que telle, n'existera donc plus. Joints par téléphone, des acteurs du monde associatif de la lutte contre les sectes se disent atterrés, même si cette décision ne les surprend pas depuis un an. La mission n'a plus de président et tourne au ralenti depuis plusieurs semaines. Rattacher les fonctionnaires de la Mivilude au ministère de l'Intérieur est selon eux une erreur. Les sectes agissent certes dans le monde religieux, mais aussi dans la santé, l'éducation, la culture ou le monde sportif. D'où l'intérêt de garder ce caractère interministériel. L'un d'eux affirme par ailleurs que le gouvernement veut faire des économies et qu'il se prive pour cela d'un outil fondamental. Un autre acteur du monde associatif va plus loin au sujet de l'exécutif. Ils sont, dit-il, obsédés par la déradicalisation. Les deux combats sont justifiés, mais ils ne se mènent pas de la même manière. Pour lui, intégrer la lutte contre les sectes au combat contre la radicalisation, c'est une manière de la faire disparaître.
Et Wafia, vous avez joué au téléphone l'un des présidents les plus médiatiques de cette mission, le magistrat Georges Fenech. Il déplore vivement cette disparition.
Cette décision est d'une conséquence terrible. Cette institution nous était enviée d'ailleurs par le monde entier. Le phénomène est malheureusement très 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 important et il fallait que les pouvoirs publics maintiennent cette institution pour maintenir cette vigilance et cette protection. Moi je crois que c'est une défaite des pouvoirs publics, mais c'est aussi une victoire des mouvements dissidents, des mouvements ésotériques, des mouvements à caractère sectaire qui ont réussi depuis un certain nombre d'années à faire un lobbying acharné et à infiltrer, je dis bien infiltrer, des lieux de pouvoir jusqu'à obtenir la tête de la Mivilude.
Voilà pour les propos de Georges Fenech. Merci Wafia Kenich. Et pour en savoir encore plus, il y a donc franceinter.fr. Les immigrés colonisateurs, l'islamisation de la rue. Il y aura une enquête après ces propos tenus par Éric Zemmour ce week-end. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour injures publiques et provocation publique à la discrimination. Ces magnifiques photos de vacances que vous laissez sur Instagram, ce tweet rageur sur la fiscalité en France, ce post Facebook où vous parlez de vos deux propriétés secondaires, tout cela parle de votre train de vie, du niveau des impôts que vous devriez payer, tout cela peut servir au fisc. Jusque-là, l'administration n'avait pas le droit de scanner les réseaux sociaux pour repérer d'éventuels fraudeurs. Et bien alors que le débat sur le budget va commencer, Delphine Simon, cela pourrait changer et cela suscite la controverse.
Oui, aujourd'hui les limiers de Bercy ont à leur disposition toutes ces informations que vous déclarez à l'administration. Impossible pour le moment, sauf au prix d'un coût humain disproportionné, de les croiser avec celles que vous laissez lorsque vous faites du commerce en ligne, sur les plateformes internet comme Le Bon Coin, Price Minister ou Facebook. Les outils informatiques existent, mais leur exploitation n'est pas autorisée. L'objectif, c'est de permettre à certains agents du fisc et des douanes de siphonner massivement les informations informations trouvées sur Internet, des données libres d'accès, précise le projet de loi, afin d'améliorer le ciblage et la lutte contre les fraudeurs. Sur le principe, la CNIL, le gendarme de la vie privée, n'est pas contre, mais face à l'ampleur inédite de cette collecte, elle réclame des garde-fous plus importants. Émilie Serugaco.
Un dispositif de cette ampleur est inédit. Il traduit également un changement de technique employée. Il va pouvoir permettre le développement d'algorithmes spécifiques pour améliorer le ciblage des contrôles fiscaux à partir de données communiquées dans un tout autre contexte. Cette collecte est susceptible d'avoir un impact sur le comportement des internautes et donc d'interférer dans d'autres libertés, le droit au respect de la vie privée d'une part et sur la liberté d'expression.
Alors selon le projet de loi, le fisc se concentrera sur les faits les plus graves et les données, si elles ne sont pas utiles à une enquête, seront détruites au bout de 30 jours. Mais la CNIL réclame un examen régulier au cours de l'expérimentation pendant 3 ans aux législateurs de fixer ces garanties. Le travail parlementaire commence la semaine prochaine.
Après Christine Lagarde, une nouvelle patronne pour le Fonds monétaire international, la Bulgare Kristalina Georgieva. Eva devient officiellement la directrice de ce fonds monétaire international. Bonjour Cécile de Kervas-Doué.
Bonjour.
Une européenne, une de plus, celle-ci a un profil particulier, Cécile.
Oui, et ce profil atypique, elle sait très bien le mettre en scène, comme en témoigne cette flash mob du 8 mars dernier à la Banque mondiale.
We must knock down the barriers that hold women back.
T-shirt rose et déhanché fluide, Kristalina Georgieva assure qu'il faut faire tomber les barrières dont souffrent les femmes, mais avec énergie et passion. Engagée dans la lutte pour l'égalité entre les sexes, elle est aussi engagée depuis le début de sa carrière dans la lutte contre la pauvreté et dans la lutte mondiale contre le réchauffement climatique. Économiste diplômée de l'université Karl Marx à Sofia en Bulgarie, la nouvelle directrice du FMI a grandi dans un pays donc à l'économie planifiée, où elle a défendu une thèse sur la politique environnementale et l'économie américaine. À la chute du mur, elle enseigne aux États-Unis, puis rejoint la Banque mondiale, où elle fait pratiquement toute sa carrière, jusqu'à occuper la fonction de directrice générale. En 2010, elle est commissaire européenne en charge du budget humanitaire de l'UE et défend les pays émergents. Pas étonnant donc si la nouvelle directrice du FMI a affirmé dès sa nomination que l'institution devait d'abord s'occuper des inégalités. Son premier dossier sera d'ailleurs celui de la crise économique argentine.
Merci Cécile. De Saint-Sulpice à la Cour de justice de la République, Édouard Balladur était hier aux obsèques de Jacques Chirac. Il est aujourd'hui renvoyé devant la Cour qui juge les ministres pour une affaire qui remonte au plus fort de sa rivalité avec Chirac. L'ancien chef du gouvernement et François Léotard sont accusés de financement illégal de la campagne présidentielle de 95. C'est l'affaire Karachi. Sur l'agenda judiciaire également, on entre cet après-midi dans le vif du sujet, dans le procès Mediator. Mais on parle de ce procès, de cette affaire, avec un autre regard aujourd'hui, le regard d'un photographe. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour Bruno.
C'est votre chronique santé aujourd'hui.
Oui, alors ce regard nous fait affronter la dure réalité des ravages du Mediator, car ce livre, il s'agit d'un livre de photos dont le titre est « Visage du Mediator », affiche sur sa couverture non un visage, mais une cicatrice, une longue cicatrice sur le thorax. Plus de 500 personnes ont dû subir une lourde opération à cœur ouvert pour changer une ou deux valves cardiaques. Pour Marc Dantan, le photographe, c'est cette image qui s'imposait.
C'est apparu comme une évidence qu'il fallait absolument photographier ces cicatrices, voir cette grande ligne au milieu de la poitrine, surtout des femmes, descendre du haut du torse jusqu'en bas pour certaines. C'est très impressionnant. Elle me considérait presque comme un médecin. Elle se déshabillait comme si j'allais les ausculter. C'était un signe de confiance extrême. On me donnait à voir des blessures dans sa chair et il fallait que moi, je puisse en rapporter toute l'importance. C'était vraiment des moments très forts.
Marc Dantan a ainsi rencontré 52 victimes sillonnant l'an dernier toute la France pour aller à leur rencontre. C'est lui au départ qui contacte Irène Frachon, la pneumologue lanceuse d'alerte.
Après avoir vu le film d'Emmanuel Berco, La fille de Brest, j'ai été absolument révolté par ces pratiques. Je me suis dit, à mon niveau, ce que je pourrais faire, que ces statistiques, ce nombre de morts ne restent pas abstraits. Ce sont des vies, hein. On a tendance à l'oublier, mais on n'a pas le droit de les banaliser. Voir un visage, un regard, des yeux, ce sont des personnes abîmés, fatigués. Et le noir et blanc permet d'avoir cette distance quand même. Vous savez, la couleur de la chair, tout ça, c'est difficile. Le noir et blanc, on est peut-être plus dans l'humain et dans l'histoire, en fait.
Et Daniel, c'est un livre qui n'aurait peut-être pas vu le jour sans une collecte participative.
Sans aucun doute, car c'est une fois l'argent recueilli pour ses déplacements que Marc Dantan a pu effectuer son tour de France. Et il dit « J'ai pris la route sans imaginer l'ampleur du désastre que j'allais rencontrer. Visage du Mediator, c'est édité par Prescrit. Magazine médical indépendant.
Et qui a joué un rôle clé dans cette affaire.
Absolument.
Du Mediator. Merci Daniel Messager. Adieu Jessie Norman. Elle pouvait chanter la Marseillaise, la Marseillaise, du gospel ou du Purcell. Déjà des frissons. Bonjour Stéphane Capron.
Bonjour Bruno.
Stéphane, la soprano américaine vient de mourir à 74 ans. Son corps n'a pas résisté à une septicémie. Jessie Norman, née à Augusta, Georgia, États-Unis, mais c'est en Europe et particulièrement en France, Stéphane, que sa carrière a décollé.
Et bien avant les États-Unis, celui qui a contribué à sa renommée, c'est le chef Jean-Claude Casadesus avec son Orchestre National de Lille. Il décèle en elle un énorme talent et surtout l'envie, comme lui, d'aller au-devant du public, de populariser la musique classique, y compris dans des lieux les plus inattendus.
Je l'ai connu dans les années 76. C'était rigolo parce que je l'ai même invité à diriger à Dunkerque où on s'est retrouvé un jour dans un bar à Marin. Et donc il y avait l'immense Jessie Norman en devenir parce qu'elle était, elle était au début de sa carrière. Elle avait chanté La mort d'Isolde devant un grand nombre de personnes qui n'avaient jamais assisté à un concert et qui ont eu une révélation. C'était une personne qui était habitée par un formidable legato, qui avait une puissance vocale exceptionnelle et qui, dans le répertoire allemand, avait compris cette extraordinaire transmission de l'émotion que sa voix vraiment maîtrisait parfaitement.
Et Stéphane, Jessie Norman était présente dans toutes les manifestations populaires.
Alors, il y a cette image du 14 juillet 1989 oui. Où elle chante la Marseillaise, vous l'avez dit, vêtue dans une robe aux couleurs du drapeau français. Et puis, 10 ans plus tard, elle célèbre à Reims l'éclipse solaire. C'était le 11 août 1989. Il est 12h24. Il y a des centaines de milliers de personnes dans la ville, beaucoup devant la cathédrale. L'obscurité en plein jour, 2 minutes de silence. Et puis lorsque le soleil réapparaît, eh bien, il y a Jessie Norman qui chante un gospel. Des frissons, j'en ai encore des frissons parce que j'étais devant elle à ce moment-là. C'était vraiment un moment magique.
Peut-être quelque chose en effet. Adieu Jessie Norman et merci à vous Stéphane Capron. Le football, la Ligue des Champions, Galatasaray PSG ce soir à Istanbul et le portrait d'un ex du PSG est devenu une vedette en Turquie, Pascal Nouma. Bruno Salomon.
14 ans qu'il a arrêté le football, Pascal Nouma, et depuis, installé en Turquie, pays où il a joué au Beşiktaş, le natif d'Épernay-sur-Seine a tourné dans une dizaine de films, il a fait de la radio, a participé à Danse avec les Stars, Survivor, The Voice, et il a fait aussi des pubs pour du dentifrice, des fast-food ou encore des paris sportifs. Bref, il est le français le plus connu du pays.
C'est vrai que c'est une vie qui est passionnante quand même. Après le football, c'est vrai que c'est une vie qui change. Hein.
Pour comprendre cette popularité, il faut se balader avec Pascal Nouma, désormais Dijon, dans les rues d'Istanbul, pas un mètre sans un selfie, une tape dans la main, une bise. Attila a pris sa photo avec l'ancien footballeur devant nous.
Merci, hein, c'est cool.
Ouais.
On l'apprécie.
Plaisir de croiser à Istanbul.
Voilà.
C'est vrai.
On est pour Galatasaray, mais bon, on l'apprécie bien. Quoi.
Ce soir, Pascal Nouma, formé au PSG, son club de cœur ne sera pas au stade de Galatasaray pour encourager les siens.
Je vais les encourager de la maison parce que interdiction pour moi d'aller au match au stade de Galatasaray parce que je pourrais me faire tuer.
Mais pourquoi ?
Je fais partie du Beşiktaş, je suis Beşiktaş et je suis le club ennemi. Non mais je vais plutôt rester à la maison regarder le match à la télé.
Même si sa famille vit en grande partie en France, Pascal Nouma nous l'a confié, il terminera sa vie en Turquie, ce pays qui, lui, l'enfant terrible du football, l'a adopté et fait star.
Galatasaray PSG à 21h, à suivre également ce soir Tottenham, Bayern, Munich.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Élodie Calac.
C'est agité sur le pays aujourd'hui, des Pyrénées au nord-est de bonnes averses orageuses avec du vent en prime. Du Languedoc au nord des Alpes, quelques averses orageuses, mais ça se gâte en fin de journée. Des averses orageuses fréquentes, musclées. Ce temps gagnera aussi la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse cette nuit. Sur le nord-ouest, jusqu'au nord de l'Aquitaine, à la Sologne, Champagne-Ardenne, ça reste très nuageux avec quelques averses. Elles deviennent plus fréquentes et orageuses de la Normandie jusqu'au nord-Pas-de-Calais. Comptez 17 degrés à Cabourg cet après-midi, 18 à Amiens, 20 degrés à Paris, Angers, 22 à Besançon et à Bordeaux, 27 à Lyon, Toulouse, Marseille ou Ajaccio. Demain, il fera plus frais, 13 à 19 degrés au nord, 16 à 25 au sud. Le soleil s'imposera sur le sud-est. Ailleurs, il restera des averses, mais ça s'arrangera l'après-midi au nord.